Ça va? Ok. Déjà, un grand merci d'être présent ce soir pour la troisième conférence du cycle Questions de société, donc organisée par les BU Lyon 3 avec nos enseignants-chercheurs de l'université. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Cossard, donc géographe, professeur de l'université et directeur du laboratoire CNRS Environnement, Société et Ville, non, dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, ville et société, qui va ce soir donc nous parler des mutations environnementales sur le territoire du Beaujolais. Voilà, donc vous allez faire votre présentation et il y aura à la fin un temps de questions où on fera circuler le micro, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Ah. Bonsoir, installez-vous, rebonsoir. Eh bien, du coup, je vous laisse démarrer.
Très bien, merci. Et je tiens à vraiment remercier tout le service de l'ABU pour cette opportunité. Je trouve que c'est toujours un moment très, très agréable que de présenter ces travaux de façon, on va dire, peut-être moins formelle et avec l'occasion de croiser, d'échanger avec des collègues institutionnels, de la sphère opérationnelle avec lesquels on échange, et puis bien sûr les étudiants, la société, enfin je reviendrai là-dessus, mais je trouve que c'est un beau projet pour notre université. Alors effectivement, cette conférence va évoquer en fait un terrain qui est relativement nouveau pour moi, c'est-à-dire le Beaujolais viticole, qui est un terrain sur lequel il y a eu l'occasion justement de travailler avec des étudiants et en partenariat avec des acteurs locaux. Alors le titre, d'où est-ce qu'il vient? Peut-être faire un petit peu l'exégèse du titre, je suis désolé, il n'y aura pas de dégustation de Beaujolais nouveau à la fin. Enfin, hélas, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, d'ailleurs en fonction de la perception qu'on a du Beaujolais nouveau. Mais en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi de voir finalement comment le géographe, par son expérience, par son expertise, va chercher à décrypter les paysages pour essayer de voir quelles sont les dynamiques spatiales, territoriales, sous-jacentes. Et c'est vrai que souvent, on se demande toujours ce que fait un géographe finalement. Non, il n'apprend pas des listes de villes par cœur, mais en fait, il cherche à décrypter ce qui se cache derrière un paysage, comme par exemple ici, celui du Mont Brouilly, qui est notamment un des secteurs emblématiques où on voit aussi tout le patrimoine paysager présent dans ce Beaujolais. Les étudiants tout à l'heure, à travers l'expo photo, ont parlé de ce paysage à la fois ouvert, mais aussi un paysage structuré, géométrique, qui est souvent aussi perçu comme un paysage ancestral. Et puis c'est vrai que le vignoble est apparu, comme dans beaucoup de secteurs, alors d'abord à l'Antiquité, et ensuite c'est beaucoup formalisé, développé, notamment en relation avec l'Église au Xe siècle, mais on va voir que l'histoire est beaucoup plus compliquée que cela. Donc l'objectif de cette conférence, ça va être de voir un petit peu ce qui se cache pour le géographe derrière ces paysages. Je parlerai donc de vignobles, des paysages qui sont associés, mais on ne peut pas non plus parler du Beaujolais sans également mettre en évidence le patrimoine correspondant au patrimoine bâti, dont je ne suis pas spécialiste, puisque moi je fais de la géographie dite physique, c'est-à-dire que je m'intéresse plutôt aux questions, on va dire, d'environnement, au milieu biophysique et pas forcément sur l'urbain. Mais quand on voit cette photographie-là, moi ce qui m'intéresse et ce qui tout de suite me marque en tant que géographe, c'est vrai qu'on voit là une forme de patrimonialisation aussi à travers ces pierres, alors qu'ici sont des pierres dorées, mais qui parfois sont aussi des pierres rouges, blanches, etc. Et qui sont à la fois révélatrices du savoir-faire en termes de patrimoine bâti, mais aussi finalement révélatrices d'une géologie diversifiée qui contribue finalement à créer ce que, dans le cadre du géoparc, il est appelé l'identité Beaujolais. Alors néanmoins, ces deux images, je les montre aussi en fait pour les déconstruire. Parce qu'en fait, en tant que géographe, on doit justement essayer de passer derrière le décor, en quelque sorte, passer de l'autre côté du miroir, comme je dis souvent aux étudiants, pour voir tout ce qui n'est pas présent, ni à travers les statistiques officielles, ou ni derrière le décorum, qui est forcément un décorum un petit peu construit. Donc qu'est-ce que fait le géographe dans cette histoire? Tout d'abord, j'aime beaucoup cette citation de Jean Brune, qui ne date pas d'hier, qui dit déjà « la géographie étudie les modalités modalités d'implantation de l'homme sur la planète et la part des transformations qui sont associées justement à cette activité humaine. J'aime beaucoup cette phrase parce que même si elle date d'il y a plus d'un siècle maintenant, elle entre vraiment en résonance avec les enjeux contemporains. On parle beaucoup de changements climatiques, mais plus généralement de changements environnementaux. Et sans doute que le géographe, parmi des spécialistes d'autres disciplines, se doit d'être là pour mieux comprendre et faire comprendre les changements environnementaux qui sont liés à l'implantation de l'homme sur la planète. Et on sait bien que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une planète habitable. Et c'est en cela aussi qu'il faut comprendre son aménagement et son ménagement. Ensuite, autre citation que je vais reprendre de collègues, une citation plus récente cette fois-ci, qui nous amène justement, comme je le disais, à dépasser un petit peu le décorum que l'on peut voir dans le paysage pour voir ce qui se cache derrière, les enjeux qui se cachent derrière. Parce que notamment dans les zones, on va dire, rurales, à l'image du Beaujolais, il peut y avoir parfois tendance, surtout bah, voilà, quand on ne connaît pas forcément les secteurs en question, à se laisser un petit peu bluffer par la tendance, on va dire, à la folklorisation et avoir une vision un petit peu bah, de domination, finalement, voilà, de nous, urbains, qui allons nous promener en ville. Et il est important d'essayer de voir, bah, finalement, ce qui relève parfois de stratégies de développement local, qui peuvent aussi travestir aussi la culture, les modes de vie des personnes qui vivent concrètement au quotidien dans ces espaces-là et qui le font vivre et qui le font évoluer. Et donc au final, je reprends encore une fois une autre citation, cette fois-ci pas du tout d'un géographe, mais d'un peintre, Paul Klee, qui indique que il disait « l'art ne représente pas le visible, il rend visible ». Et moi, quand j'ai entendu cette citation, je me suis dit bah, « c'est exactement le rôle de la géographie ». C'est justement essayer, pas de représenter directement ce que l'on voit, mais plutôt de rendre visible ce que finalement on ne voit pas de prime abord, autrement dit, ce qui se cache, encore une fois, derrière le décorum. Et pour ça, le Beaujolais, c'est vraiment un territoire idéal, parce qu'on a un très joli décorum, en quelque sorte, on a un très beau paysage, qui peut aussi nous donner le sentiment d'une certaine illusion sur certains enjeux. Et quand on est géographe, on va au-delà de l'illusion pour essayer de voir qu'est-ce qui anime concrètement ce territoire et qu'est-ce qui le fait évoluer. Et à partir de là, on pourra essayer de discuter aussi de comment il pourrait évoluer à l'avenir. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu la philosophie de cette présentation, déconstruire les paysages pour voir encore une fois ce qui les anime et comment évolue le territoire en question, on va un peu présenter ce territoire et son intérêt finalement pour les géographes, pour bien voir qu'on a là en fait un laboratoire à ciel ouvert qui est formidable pour nous, parce que voilà, quand on est chercheur à Lyon, c'est un terrain de proximité et un terrain dans lequel, on va dire, on a un champ de force qui est extrêmement complexe et particulièrement intéressant et qui rend dynamique en fait ce territoire. Alors j'ai repris cette carte en fait de la base de données officielle de l'INSEE, qui est une carte qui présente la typologie des espaces ruraux. Et moi, ce qui m'intéresse sur cette carte, c'est qu'on voit que finalement, le Beaujolais fait partie de ce qui est qualifié de rural périphérique, où on voit directement l'influence de la croissance urbaine, avec toute la pression foncière notamment, qui va y être associée et qui indique déjà par elle-même que le Beaujolais, il ne faut pas le voir comme un territoire qui est en quelque sorte un système fermé, une île isolée au milieu de rien. Non, le Beaujolais, c'est effectivement un territoire qui est à la fois en contact, peut-être même aussi à l'ombre de Lyon, et qui fait qu'il va y avoir forcément des relations, on va dire, spatiales, des interactions qui peuvent être ambivalentes ou complexes entre le Beaujolais et cette métropole, mais aussi d'autres objets géographiques qui vont influencer la trajectoire du Beaujolais. En tout cas, pour le moment, effectivement, essayons déjà de juste montrer l'influence de cette pression réalisée par la métropole de Lyon sur le territoire du Beaujolais. Et pour ça, il y a un indicateur, un révélateur qui peut être intéressant, qui est celui de la surface en culture permanente. Et donc cette carte montre de façon très brute, ici, la part de surface en culture permanente dans les différentes communes du département du Rhône, mais notamment, bien sûr, dans le secteur du Beaujolais, où on voit que, de prime abord, quand on raisonne à l'échelle du Rhône, on a l'impression là, d'avoir un secteur qui, bien sûr, est marqué par les activités agricoles. On suppose, bien sûr, par le vignoble, même si ici, il n'est pas question de la qualité des cultures ou du type de culture qui va être mis en place. Mais on a, en quelque sorte, les records en termes d'emprise surfacique le record à l'échelle du Rhône de l'emprise surfacique des zones qui sont mises en culture permanente. Toutefois, même si on fait de la géographie, on doit aussi toujours replacer les observations, ou ici les statistiques qui sont acquises directement, dans une trajectoire évolutive, et juste en comparant de façon très brute cette carte qui a été réalisée à partir des données de 2010 avec celle de 1988, on voit tout de suite qu'on a une tendance vers la décroissance des surfaces en culture permanente. Et cette carte montre bien la baisse des activités qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, j'aime pas tellement cet adjectif, mais des activités, on va dire, typiques d'un espace agricole comme le Beaujolais, et au profit d'autres activités, et des activités qui sont plus dévolues finalement à une zone périphérique, périurbaine, c'est-à-dire le logement, mais aussi d'autres types de services directement en connexion avec la métropole de Lyon. Alors au-delà de ces deux cartes, faut bien avoir en tête que l'histoire du Beaujolais et les paysages qui sont le reflet de cette histoire ont évolué, ont oscillé parfois de façon complexe sur un pas de temps beaucoup plus long. Et donc il est aussi intéressant de remettre en perspective l'évolution contemporaine, l'évolution récente dans une frise chronologique un petit peu plus lointaine. Et donc là je vais reprendre une frise chronologique qui a été formalisée par des étudiants de master l'année dernière, qui a reconstitué quelques jalons de la trajectoire évolutive du territoire Beaujolais et notamment ici du vignoble du Beaujolais. Alors derrière cette frise chronologique, il y a plusieurs éléments que je voulais mettre en évidence. Tout d'abord, le vignoble du Beaujolais, finalement, dans son expansion, il est finalement assez récent. C'est-à-dire que il y a eu des phases d'emprise, de déprise. Il n'y a pas eu de tout temps du vignoble dans le Beaujolais. Et on peut d'abord bien avoir en tête que, à l'origine, enfin, ou de façon historique, le Beaujolais, c'est une terre de polyculture. Et quand on regarde ces cartes postales d'archives, il est intéressant de noter, par exemple, dans le secteur de Beaujeu, ici, les cartes postales qui sont éditées au début du XXe siècle ne mettent pas en avant le vignoble, ou pas systématiquement, mais par exemple, ici, les périodes de moisson qui sont le reflet de cette polyculture qui, encore une fois, s'est classiquement installée sur l'ensemble des vallées et des versants du Beaujolais. Alors, néanmoins, le Beaujolais a ensuite, bien sûr, progressivement connu un essor de son vignoble, et un essor en fait qui s'est matérialisé en plusieurs étapes. Après la crise du phylloxéra, il y a quand même eu un regain, on va dire, des emprises spatiales du vignoble, et un regain qui après s'est progressivement accéléré, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous en tête la date de 1951, qui est celle de l'apparition du Beaujolais nouveau, qui est, on va dire, un marqueur, une date chronologique importante qui marque ici la volonté de continuer à contribuer à l'essor de l'extension du vignoble. Et ça s'ancre par le marketing, mais aussi un marketing qui est un marketing qui se différencie de quelques autres vignobles qui sont pas forcément voisins comme celui de Bordeaux, ou voisins comme celui de Bourgogne, et qui ne visent pas forcément la même la même clientèle. Et donc c'est aussi intéressant de reconsidérer cette apparition du Beaujolais nouveau qui vante un vin primeur, comme aussi le reflet peut-être d'essayer de se démarquer notamment du voisin bourguignon qui, lui, de façon historique, pour s'affranchir aussi de son isolement, avait fait très tôt le choix d'un vignoble de qualité qui permettait de justifier des prix de vente et donc des prix de revient bien supérieurs à ce que l'on observe, par exemple, dans le Beaujolais. Néanmoins, avant le Beaujolais nouveau, j'aime bien rappeler ces quelques dates qui fait que, bah, par exemple, en 1935, lorsqu'il y a eu les premières délimitations géographiques des appellations d'origine, bah, lors des premiers textes, finalement, le Beaujolais apparaissait comme un ensemble de la Bourgogne, inclus directement dans la Bourgogne. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être aussi par le biais de cette espèce d'héritage que maintenant le Beaujolais espère aussi pouvoir bénéficier de l'appellation Bourgogne, qui, sur le plan marketing, est un peu plus favorable que celle du Beaujolais. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même eu cette volonté, effectivement, je ne vais pas dire d'émancipation, mais en tout cas d'essayer de se différencier du voisin bourguignon. Et j'aime bien cette anecdote qu'il existait dans les années 30, un comité de propagande du Beaujolais qui visait notamment à créer des appellations d'origine qui se subdivisaient, qui se différenciaient, notamment des appellations de Bourgogne. Donc voilà un petit peu pour la trajectoire du vignoble du Beaujolais. Dernier élément sur lequel je vais insister, c'est que voilà, après cette phase d'essor de la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, y a le paroxysme qui est atteint, bon, suivant les modes d'acquisition des données, dans les années 1990-1995, voilà, qui est sans doute la date un petit peu, on va dire, de l'apogée où on atteint l'extension maximale du vignoble. Depuis, on est en phase de décroissance, une décroissance qui n'est pas homogène, hein, en tout point du territoire. Mais en tout cas, une phase de décroissance qui est accompagnée par plusieurs faits, c'est-à-dire que bah, déjà, effectivement, il y a une forme de surproduction, une difficulté de vendre, d'écouler l'ensemble des vins qui sont produits. Mais aussi, il ne faut pas oublier, et c'est là où on voit les relations complexes qui peuvent être entretenues entre le Beaujolais et la ville de Lyon, c'est que quand on a voilà, des secteurs qui sont en phase de décroissance, et notamment aussi de décroissance économique, eh bien, il peut y avoir une tentation de changer d'affectation les sols et peut-être qu'il est plus facile et plus rentable, en tout cas pour certains propriétaires, de stopper la culture de la vigne pour vendre les terrains, si possible peut-être aussi comme terrain à bâtir pour faire des plus-values et ainsi marquer un processus d'urbanisation qui est effectivement un processus sur lequel je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Donc en tout cas, une histoire complexe avec des oscillations, une trajectoire qui n'est pas du tout linéaire et qui n'est pas du tout simple. Et cette trajectoire, après, va évidemment s'imprimer dans des contextes locaux qui sont diversifiés. Ça, c'est quelque chose qu'aime bien le géographe. Il ne considère jamais les territoires qu'il appréhende comme des territoires homogènes. Il sait qu'il y a forcément des effets de site, des effets de contexte qui vont aboutir localement à des réponses différentes des différents lieux, à des évolutions différentes et qui font que même avec le même champ de force, la même stimulation extérieure, et bien, il va y avoir des particularités locales qui vont apparaître. Donc ce bloc diagramme, pour poser un petit peu aussi le décor du paysage du Beaujolais, qu'on a tendance à subdiviser en quelques grands ensembles, le Beaujolais vert, hein, dans la partie ouest, qui est la partie, on va dire, la plus haute en altitude, hein, qui culmine à plus de 1000 mètres au niveau du Mont-Saint-Rigaud, j'en parlerai assez peu. Sur la partie est qui regarde vers la Saône, là on va notamment avoir bien sûr tout le vignoble, mais le vignoble lui-même n'est pas homogène dans la façon dont il est structuré. Dans la partie nord, il y a notamment tous les secteurs qui correspondent aux appellations les plus hautes dans la hiérarchie des appellations d'origine. C'est là qu'on va retrouver les crus du Beaujolais, notamment le Moulin-Avant, le Brouilly, le Morgon, etc. Et comme on est haut dans la hiérarchie des appellations d'origine, bah forcément, il va y avoir un présupposé que le vin est de meilleure qualité et qu'on va pouvoir aussi le vendre plus cher, pour faire simple. Alors que dans la partie sud, à proximité directe de Villefranche-sur-Saône et donc aussi dans le secteur des Pierres Dorées, là on va voir des appellations Beaujolais, Beaujolais Village, qui sont des appellations beaucoup plus classiques, qui sont on va dire à la base de la hiérarchie des appellations d'origine. Et donc là on va plutôt avoir du vin de gamme on va dire moyenne et qui forcément ne pourra pas se vendre au même prix que les autres vins. Pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est qu'on imagine tout de suite que entre les crus du nord et le Beaujolais du sud, le Beaujolais du sud va être à la fois en difficulté parce que va pas être très haut dans la pyramide, dans la hiérarchie des appellations d'origine. Et en même temps, c'est le Beaujolais qui regarde le plus vers Lyon. Donc c'est aussi celui vers lequel la pression foncière, la pression de la métropolisation va être la plus forte, la plus importante. Donc c'est peut-être là qu'il y aura le plus de tendances, sans vouloir ménager le suspense, à convertir, ou en tout cas tenter peut-être d'abandonner certaines activités viticoles qui n'apparaissent plus rentables, qui sont en tout cas plus perçues comme rentables, ou qui effectivement dans les faits ne le sont plus, pour participer à une spéculation foncière. Alors néanmoins, tout ce que je vous ai présenté ici, encore une fois, on reste un petit peu au niveau de l'histoire officielle, c'est-à-dire les statistiques que l'on peut acquérir dans les bases de données en ligne, celles de l'INSEE, qui sont diffusées notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, ces éléments-là, ce ne sont que des éléments de contexte qui servent à planter le décor, mais maintenant il faut essayer de passer un petit peu derrière le décor pour voir concrètement ce qui se cache derrière ces statistiques, ce qui se cache derrière ces grandes tendances, pour mieux reconstituer les processus qui animent l'évolution de ce territoire. Donc à partir de ces quelques forces que j'ai présentées, on peut essayer dans le paysage de voir concrètement comment est-ce qu'elles vont se matérialiser, et peut-être aussi à partir de cette entrée paysagère que l'on peut essayer de déceler un certain nombre d'autres éléments, d'autres dynamiques évolutives qui, encore une fois, ne sont pas visibles dans les bases de données officielles engendrées par les institutions. J'aime beaucoup cette photo vue du Mont Brouilly qui a été prise par Jessica Pic, parce qu'elle montre un petit peu l'image d'Épinal du vignoble dans la zone des crues, qui a priori est la zone qui est la plus stable en termes de maintien des activités viticoles. Mais déjà, on peut se rendre compte que on n'est pas dans un 100% vignoble, c'est-à-dire qu'il y a adossé aux parcellaires de vignobles, par exemple, des prairies, donc des zones de pâturage, peut-être aussi des zones d'élevage, donc associées à ces zones de pâturage. Donc tout ça pour renforcer qu'encore une fois, on n'est pas dans un vignoble monomaniaque, peut-être à la différence d'autres vignobles, comme notamment l'étroite côte de Bourgogne. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence à voir, même dans ce secteur des crues, des prémices de voyez, ces petites parcelles-là qui ont l'air de rien vu de loin, mais lorsque l'on s'approche un petit peu, matérialisent des formes d'abandon du vignoble, des formes d'abandon ici des activités agricoles. Donc quand on apprend finalement à les observer, on se rend compte que ces friches, elles sont effectivement extrêmement présentes, et même, bon là, si je change de secteur, un peu plus au sud, dans le secteur des pierres dorées, on va se rendre compte qu'une fois qu'on apprend à les regarder, elles vont presque apparaître finalement omniprésentes. Alors parfois avec différents stades d'évolution, comme par exemple ici une friche qui est sans doute très jeune. On a une couverture essentiellement herbacée, une strate buissonnante qui commence à se structurer avec l'apparition de graminées. Ici, peut-être une friche un peu plus ancienne, avec une végétation ligneuse, arborée, qui commence à se mettre en place. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? C'est qu'en fait, là, ne serait-ce qu'à partir de la végétation, on peut déjà avoir une idée de l'âge, de l'abandon, de l'entretien de ces différentes friches. Là, peut-être quelques années, entre 0 et 5 ans, pas tellement plus, parce que sinon, on aurait déjà de la végétation ligneuse qui commencerait à apparaître, tandis que là, on est sans doute plutôt aux alentours de 10 ans, lorsque l'on voit apparaître ici cette végétation ligneuse. Autre élément que l'on voit aussi sur ce paysage, qui est un autre reflet de la dynamique évolutive, c'est l'extension, par exemple, de lotissement ici qui s'effectue au détriment des terres agricoles, et qui montre bien, là encore une fois, la dynamique de pression foncière qui se met en place, notamment en relation, encore une fois, avec cette croissance économique, démographique de la métropole de Lyon. Néanmoins, derrière ces changements, il faut bien avoir en tête que vont découler un certain nombre d'impacts sur le plan environnemental. C'est-à-dire que Faut pas imaginer que la friche, c'est un retour à la nature qui est forcément vertueux et qui va avoir de multiples bénéfices. En fait, le retour à la friche, voilà, ça peut être aussi l'occasion d'avoir l'essor d'espèces invasives, non voulues, qui vont prospérer et qui parfois aussi peuvent être un puits, un réservoir pour un certain nombre d'espèces nuisibles, voire de parasites, notamment pour la végétation ou pour les espèces qui sont cultivées, les espèces végétales qui sont cultivées directement à proximité. Ensuite, voilà, les lotissements, c'est pareil, ça a un impact environnemental. Le fait de construire un bâti, ça impose une artificialisation des sols qui va modifier notamment la dynamique de ruissellement, la dynamique des écoulements, qui après pourra avoir au final un impact fort sur le régime des cours d'eau. Je reviendrai un tout petit peu dessus un peu plus tard. Alors néanmoins, ce que je voulais aussi montrer à travers ces photos, c'est l'importance du travail de terrain quand on est géographe. Parce qu'en fait, lorsque on travaille par exemple par télédétection, c'est-à-dire, je sais pas, par examen des photographies aériennes, des images satellites, eh bien en fait, ce genre de parcelle est très difficile à identifier parce que déjà, on a une échelle finalement très fine. Et puis ensuite, bah, il n'y a rien qui ressemble plus à une friche que, bah, par exemple, en haut, une prairie, ou pour la parcelle du bas, bah, peut-être une forêt, même si c'est une forêt jeune. Donc il y a une grande difficulté, là c'est pareil, dans les bases de données officielles, à être vraiment sûr de ce qui est marqué parfois comme espace en transition ou espace abandonné ou ce qui est caractérisé comme forme de friche. Il n'y a guère que l'expertise de terrain qui permet de s'assurer que véritablement on a des formes d'abandon et que souvent on retrace ou on redocumente par un examen de la végétation, bien sûr, mais aussi par le fait que souvent, dans ces parcelles que l'on caractérise comme friches, que l'on caractérise comme abandonnées, eh bien, des héritages, vous voyez, d'installations, par exemple ici, hydrauliques passées, qui amenaient au drainage ou en tout cas à la maîtrise du ruissellement dans les différentes parcelles. Donc là, par exemple, en haut, on voit très bien... la croissance de robiniers qui se mettent en place dans une ancienne parcelle de vigne qui n'est même pas les pieds de vigne qui ne sont même pas démantelés, qui ne sont même pas arrachés, et puis les témoignages d'autres caractéristiques de la mise en culture de la vigne comme ces systèmes de rigoles qui restent sur place et qui ne sont pas non plus démantelés. Alors encore une fois, cette dynamique d'enfrichement, c'est vrai que de prime abord, avec une vision très extérieure, on peut se dire voilà, c'est une forme de retour à la nature, on peut voir ça comme quelque chose de positif, et notamment lorsque on associe ça à l'arrêt d'une agriculture très intensive à laquelle bien sûr est associée de multiples intrants, de multiples produits chimiques qui vont être intégrés, ingérés directement dans les sols. Donc on peut voir ça de façon positive, mais en même temps, il faut faire attention parce que l'expérience prouve, et ça a été bien montré aussi par beaucoup de géographes, que parfois c'est pas tellement quand on a une emprise des activités humaines que les conditions environnementales sont les plus défavorables, c'est parfois justement quand on a un arrêt de l'entretien des sols, quand on a un arrêt de l'entretien des systèmes paysagers, qu'on arrête aussi finalement d'entretenir par exemple des stratégies de remédiation qui empiriquement amenaient à essayer de garder le capital sol, de garder la ressource en eau dans les sols, et le fait d'arrêter d'entretenir ces stratégies de remédiation peut parfois être pire finalement que l'emprise spatiale. Alors je ne suis pas pour l'agriculture intensive, loin de là, je dis juste que finalement les effets encore une fois peuvent être tout à fait ambivalents et complexes. Alors, en tout cas, ces friches sont effectivement complexes parce que même quand on arrive à les identifier, après, il faut aussi les interpréter. Et donc, encore une fois, la friche, finalement, c'est le reflet d'un abandon de l'entretien. Et pourquoi est-ce que finalement un propriétaire ou un viticulteur, qui peut forcément être propriétaire de son terrain d'ailleurs, va être amené à abandonner une parcelle, va être amené à interrompre son activité? Alors le cas le plus classique, c'est simplement lorsque on est en phase de surproduction, peut-être qu'on peut arrêter de cultiver des parcelles qui sont complexes à cultiver. en raison d'un éloignement, en raison d'une pente, des parcelles peut-être qui ne donnent pas le meilleur vin. Et donc, il va y avoir d'abord une friche, on va dire, correspondant à une forme de repli de l'activité du viticulteur ou de la viticultrice, d'ailleurs. Et un repli qui est généralement lié voilà, au fait que ce n'est pas la parcelle la plus rentable, ce n'est pas la meilleure parcelle, ou c'est la parcelle la plus loin du siège de l'exploitation, ou c'est une parcelle qui techniquement est difficile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est un petit peu le cas classique, et dans la littérature, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le modèle général, le modèle habituel de la dynamique de déprise, d'enfrichement, où en fait, voilà, c'est classique quand on est en phase de déprise rurale, de déprise agraire, il y a une interruption de l'abandon, un enfrichement qui se met en place sur des parcelles qui jusque-là étaient cultivées. Et cet enfrichement, bah, il faut bien avoir en tête qu'encore une fois, ce n'est pas un retour à la nature qui est toujours... idéal, qui est toujours vertueux. Sur le plan, on va dire, écologique, biogéographique, souvent cet enfrichement, il pose problème parce qu'il aboutit souvent à ce qu'on appelle une homogénéité des niches écologiques, c'est-à-dire qu'il ferme le paysage et souvent, voilà, il y a des espèces invasives qui prennent très largement le pas sur d'autres. On peut parler de l'acacia ou encore d'autres espèces. Et en tout cas, des niches écologiques qui, de ce fait, sont altérées et qui ne bénéficient plus d'une sorte d'effet mosaïque qui peut être tout à fait dommageable à la biodiversité de l'ensemble du territoire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand cette dynamique d'enfrichement se met en place de façon classique, la friche tout de suite devient un peu un objet de stigmatisation, c'est-à-dire que pour les acteurs locaux, que ce soit des habitants ou des acteurs au sens des aménageurs, ou même aussi pour celui qui visite ponctuellement le territoire, ça peut être très clairement un symbole d'échec qui va renforcer un petit peu une spirale psychologique négative finalement. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'on est en phase de déprise rurale, on le voit à travers la dynamique de l'enfrichement, et ça, les sociologues de l'environnement l'ont très bien montré. Hein. Je prends ici ce cercle vicieux qui a adapté des travaux d'Isabelle Mauss qui montre que voilà, dans beaucoup de territoires ruraux en décroissance, on a cette spirale de l'échec qui s'imprime dans la sociologie, j'ai envie de dire, dans la psychologie des acteurs locaux. Alors néanmoins, cette règle générale, elle n'est pas toujours valable. Il peut y avoir des variantes autour de cette dynamique d'enfrichement. Et là, je vous montre ici voilà, deux photographies de friches où là, vous voyez, il y a... j'ai envie de dire, un problème inextricable qui se met en place très vite, c'est que là, la friche devient une forme d'entrave. Pourquoi ? Parce que ceux qui aménageaient la parcelle n'ont pas arraché les pieds de vigne, n'ont pas enlevé les palissages, n'ont pas enlevé les fils métalliques, n'ont pas enlevé les tiges qui servaient à l'accroche du vignoble, et en fait ça crée une sorte de maquis qui fait qu'on finalement on laisse pourrir en quelque sorte la parcelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait par le biais d'entretiens, d'enquêtes, on se rend compte que parfois c'est quelque chose que justement essaye de chercher certains propriétaires, parce que finalement, en laissant pourrir ici les parcelles, en aggravant finalement en quelque sorte la dynamique d'enfrichement, on acte qu'il y a un retour impossible à l'activité agricole. Parce que remettre en état finalement ce genre de parcelles, ce serait extrêmement chronophage, extrêmement coûteux. Et donc il y a une forme là de mise sous pression aussi des acteurs pour essayer de convertir les sols, pour leur changer d'affectation et essayer dans les documents d'aménagement, dire est-ce que là, vu qu'on est à proximité d'un espace urbanisé, est-ce qu'on ne peut pas convertir notre parcelle à vocation agricole en terrain à bâtir en vue peut-être de faire une plus-value. Donc là, on a un autre cercle vicieux qui se met en place, qui fait que là, à partir du moment où l'enfrichement apparaît, il y a une tentation, alors qui peut être fantasmée, parce que les documents d'urbanisme, voilà, les règles d'aménagement, les règles de construction, on ne les change pas non plus comme ça, mais en tout cas, il y a une vraie tentation locale, en partie fantasmée, qui est que, en accompagnant, en aggravant finalement en quelque sorte cet enfrichement, on peut essayer de faire pression sur les acteurs pour essayer d'inciter à la conversion en terrain à bâtir la propriété sur laquelle jusqu'à présent on travaillait. Donc on accompagne, on aggrave l'enfrichement, et en fait là c'est souvent bien sûr quelque chose qui est très néfaste, parce que bien sûr ça acte encore une fois l'impossibilité de revenir à un état agricole, parce que c'est très compliqué de remettre en état ces parcelles, mais ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir effectivement dans les textes une possibilité de convertir ces parcelles. Et donc finalement là, on fige en quelque sorte le système, ou plutôt j'ai envie de dire, on accélère encore plus cette dynamique de décroissance, cette dynamique de déprise. Alors enfin, troisième type de parcelle, troisième type de friche, qui est un petit peu plus sournoise, dans le sens où, de prime abord, on a presque l'impression que c'est juste une prairie, c'est-à-dire voilà, une strate herbacée, où on peut imaginer voilà, une activité d'élevage, de pâturage tout à fait classique. Sauf qu'en fait, quand on fait du terrain, on se rend compte que bah, finalement, des troupeaux, il n'y en a pas tant que ça. De temps en temps, on voit un cheval associé à la dynamique du centre équestre qui est à proximité. Mais concrètement, ça paraît un peu curieux d'avoir tant d'espaces qui, de prime abord, apparaissent comme des espaces de pâturage et qui, en fait, bah, finalement ne donne pas lieu à une activité concrète d'élevage, en tout cas dans la plupart des cas. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on rencontre finalement les acteurs, les propriétaires, eh bien, on a un petit peu une autre clé de lecture qui est qu'en fait, là, il y a un petit peu le symétrique du cas précédent, c'est-à-dire que là, justement, on a bah, voilà, des acteurs qui entretiennent finalement la parcelle. Quand je dis l'entretenir, c'est simplement faire un entretien minima, c'est-à-dire faucher régulièrement, et créer ainsi une réserve foncière. Et là, on laisse en bon état la parcelle. Quand je dis en bon état, c'est grosso modo, on pourra après assez facilement changer d'affectation les sols en vue bah, voilà, de développer une activité qui sera peut-être impulsée par une politique, alors sait-on jamais, européenne, locale. Mais en tout cas, on est plutôt ici en phase d'attente. Et donc, beaucoup d'acteurs locaux sont effectivement ici dans une logique, voilà, dès que l'enfrichement arrive, bah, justement d'entretenir, c'est-à-dire de stopper l'auto-organisation de la végétation, d'interrompre le cycle végétal pour créer une forme de prairie qui serait une réserve foncière finalement, et d'être ici en phase d'attente, en attente vers quoi, ben, on ne sait pas, mais en attente potentielle vers un changement d'affectation des sols et d'un changement d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je termine là-dessus, c'est que, je termine là-dessus la typologie, c'est que, ben, en fait, voilà, on voit que là, il y a peut-être une possibilité, c'est-à-dire que finalement, là, il y a des terrains qui sont disponibles pour faire quelque chose et qu'il y a une opportunité. Et notamment le syndicat mixte du Beaujolais et le plan paysage qui est adossé au syndicat mixte du Beaujolais, sur lequel je conclurai tout à l'heure, est aussi là pour essayer de se poser la question, bah, que peut-on faire de cette opportunité, de cette réserve foncière, pour finalement réfléchir à qu'est-ce que l'on veut faire en termes d'activité, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour avoir une agriculture qui soit une agriculture, on va dire, vertueuse, répondant à certains canons environnementaux, et puis qui soit aussi, bien sûr, une agriculture quand même néanmoins suffisamment rentable pour être vivable. Alors, cette dynamique en trois principaux types, comme je le disais, elle va, on la voit émerger à l'échelle de l'ensemble du Beaujolais, mais après, elle ne va pas s'imprimer avec le même dosage partout. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des contextes locaux diversifiés. J'ai vu, hein, pour brosser à grands traits, il y a, enfin, je vous le disais tout à l'heure, il y a la partie nord du Beaujolais qui est la partie décrue, qui ne regarde pas trop vers Lyon, la partie sud qui est le vignoble un peu en souffrance, qui regarde vers Lyon. Et donc là, qu'en fonction de ce contexte, on imagine que l'importance de ces trois types de friches et ces trois types de processus d'enfrichement ne vont pas s'imprimer partout avec la même importance. Il va y avoir des spécificités locales en fonction de cette trame, en fonction de ces contextes. Alors, ça m'amène à justement voir comment s'impriment localement ces dynamiques à travers ces figures qui peuvent paraître complexes, mais qui sont finalement la synthèse d'une évolution de la trajectoire du Beaujolais dans trois secteurs. Un qui est situé, voilà, l'Ardière, dans la partie nord du Beaujolais, et les deux autres, Marveran et Merloux, dans la partie sud. Donc ce que l'on voit ici, à travers les cercles proportionnels, ce sont, dans chacune de ces zones d'études, les principaux types d'occupation du sol qui sont présents dans chacune de ces zones. Et le disque indique, reflète la superficie qui a été mesurée à la date de 2017, et les tiretés qui sont autour, je ne sais pas si on les voit très bien, correspondent au point de départ de l'histoire évolutive que l'on a reconstituée avec Jessica Pick et Johan Le Guen, correspond au point de départ qui ici est une photographie aérienne réinterprétée, datée de 1999. Et donc à partir de cette évolution, parfois donc des surfaces qui sont en croissance, comme par exemple ici, voilà, les prairies qui sont plus importantes en 2017 qu'en 1999, à partir de l'évolution de ces disques, eh bien en fait, il y a des flux, c'est-à-dire que voilà, il y a des parcelles qui à l'origine étaient de la vigne et qui après deviennent par exemple là, en Bassardière, de la prairie, ou parfois aussi également de la friche qui ici est matérialisée en noir. Donc pourquoi est-ce que je vous montre cette figure? C'est qu'en fait là on commence à toucher du doigt la reconstitution de la dynamique paysagère, c'est-à-dire concrètement quand on voit apparaître une friche aujourd'hui, comme par exemple dans le Marveran, se pose la question de qu'est-ce qui était à l'origine, enfin, qu'est-ce qui existait avant cette friche? Eh ben, dans la plupart des cas, c'était pour le Marveran du vignoble, et de façon plus anecdotique, ça pouvait également être ici de la prairie. Donc ce que l'on voit émerger à travers ces figures, c'est globalement un modèle du Beaujolais Nord, où le vignoble, bien qu'en décroissance, résiste quand même encore un peu, et le vignoble se convertit, quand il se convertit, il se convertit assez peu finalement directement vers des friches. En revanche, on voit beaucoup de conversions vers de la prairie d'attente. Quand on est plutôt dans le sud du Beaujolais, alors déjà on voit que le disque correspondant au vignoble se contracte très fortement, et parfois on a des pertes de vignoble de l'ordre de 30%, c'est quand même considérable en une vingtaine d'années, et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, il y a une partie, c'est vrai, importante qui va se convertir le vignoble directement en friche, mais ce n'est pas le schéma, on va dire, dominant. De même, il y a peut-être moins que ce que l'on pouvait présupposer de conversion de vignoble vers directement de l'espace bâti, de l'espace urbanisé. En fait, à chaque fois, le vignoble se convertit en priorité vers de l'espace de prairie, mais de la prairie qui, encore une fois, pas une prairie directement productive, qui est aussi une prairie d'attente. Et je crois que c'est ça, justement, qu'il faut retenir, c'est que cette prairie d'attente constitue finalement le reflet, on va dire, d'acteurs locaux qui sont en phase d'attente, de savoir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces terrains qui deviennent disponibles et qu'ils ont envie peut-être, pour certains, voilà, de remettre en activité, mais souhaitons-le, de façon vertueuse. Alors c'est notamment dans ce cadre-là que se met en place un plan de paysage adossé au syndicat mixte du Beaujolais, dont j'ai repris ici le document de présentation, qui présente en fait quatre principaux enjeux, quatre principales conséquences territoriales associées, on va dire, à cette dynamique évolutive des paysages que j'ai présentés. Donc, de façon très concrète, je vais juste donner des exemples derrière chacune de ces quatre thématiques pour après voir comment concrètement on peut procéder pour essayer de fournir peut-être des clés de lecture ou des outils d'aide à la décision pour les acteurs locaux. Première thématique, quand on est dans ce Beaujolais agricole, viticole en décroissance, la première thématique, c'est peut-être de chercher à contenir la pression urbaine et foncière. Et donc là, je reprends cette photographie que vous ont montré les étudiants du master géosystèmes environnementaux. On est dans le secteur d'Ouin, ici, où on voit là les traces, les stigmates du mitage urbain, de son impact paysager. Mais un impact qui n'est pas que paysager, qui est aussi un impact en termes de dynamique de ruissellement, de rupture des continuités écologiques, parce que finalement, cette verrue urbaine, appelons-la comme ça, est aussi un obstacle, par exemple, pour relier des îlots de biodiversité de part et d'autre d'elle. Et en même temps, quand on artificialise les sols, on crée des rampes de lancement pour le ruissellement et qui peuvent modifier après la dynamique des cours d'eau et peut-être favoriser l'émergence d'inondations. Autre thématique, c'est celle du maintien d'une activité agricole. Et souhaitons-le, peut-être aussi une agriculture qui pourrait être peut-être davantage durable, moins intensive, et durable, bien sûr, par la façon dont on la pratique, mais aussi en fonction de sa vocation. Et c'est vrai que moi, quand j'avais commencé à travailler avec le syndicat mixte du Beaujolais, j'avais été estomaqué par le fait que la métropole de Lyon, je crois que c'est 80% de son alimentation, finalement, qui provient de terrains qui sont directement extérieurs à la région Auvergne-Rhône-Alpes. 97%. Bon, vous voyez, donc j'aurais dû réviser avant de venir. Donc, c'est absolument considérable. Et c'est surtout troublant parce que finalement, on se dit, il y en a quand même des espaces à vocation agricole à proximité. Et est-ce que là, à travers cette réserve foncière, il n'y a pas une politique à avoir pour justement développer une agriculture qui soit durable par sa pratique en elle-même, mais aussi par finalement l'alimentation d'un circuit court. On n'a peut-être pas besoin d'importer des pommes Pink Lady depuis je ne sais pas où, alors que finalement, on pourrait les faire pousser à proximité. Alors, ce n'est pas des questions dont je suis plus particulièrement spécialiste. En revanche, j'ai peut-être une thématique qui me tient à cœur parce que c'est ce qu'elle correspond à mon cœur de métier et notamment aussi au sujet d'une thèse que j'ai la chance d'encadrer, à savoir la thèse de Jessica Pic, qui est la façon dont aussi on peut chercher à travailler sur le paysage pour voir comment il peut être finalement une clé pour aider à gérer la ressource en eau et en sol. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement, quand on a ces paysages très mosaïques, comme ceux que l'on voit ici, eh bien en fait, on a autant d'éléments du paysage, de la structure paysagère, qui créent une ossature, qui finalement ont tendance à désorganiser les hydrosystèmes, les processus érosifs et aussi la diffusion des polluants qui sont transportés à la fois par l'eau et par les sédiments. Et donc là, l'objectif de la thèse, c'est essayer de voir dans quelle mesure la structure paysagère, gérée par des effets mosaïques, des effets patchwork, mais aussi la localisation de haies, de fossés, de réseaux routiers, crée parfois des obstacles, parfois des points d'engorgement pour la circulation des eaux, la circulation des sédiments et aussi la circulation des polluants. Et donc là, il y a la possibilité de trouver des méthodes d'analyse, des outils qui aident à voir dans quelle mesure on peut aussi réfléchir à trouver une structure paysagère qui aide finalement au maintien local de la ressource en eau, de la ressource en sol et surtout éviter que les polluants se diffusent, se concentrent un petit peu partout. Enfin, quatrième thématique, c'est celle de la biodiversité. Et je reprends là cette carte, qui est une carte en fait du schéma régional de cohérence écologique proposé ici par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, simplement pour montrer que réfléchir sur les paysages du Beaujolais, c'est aussi réfléchir finalement, vous voyez, sur une zone qui est très stratégique dans toute la cohérence spatiale qui peut exister entre les îlots de biodiversité qui existent ici à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parle parfois beaucoup de trame verte, de trame bleue, c'est-à-dire de façon dont les niches écologiques, les îlots de biodiversité peuvent être reliés les uns avec les autres. Parce que finalement, pour bien protéger une espèce, ou plutôt j'ai envie de dire des espèces, c'est bien de créer des réservoirs locaux de biodiversité, c'est bien de mettre sous cloche des aires protégées, mais en même temps, si l'air protégé est isolé du reste, j'ai envie de dire, ça ne servira à rien. Il faut aider les espèces, quelles qu'elles soient, à bouger, à migrer pour satisfaire leurs besoins élémentaires, c'est-à-dire manger, se reproduire, interagir avec d'autres espèces et ainsi de suite. Et donc le Beaujolais, finalement, à l'interface entre la plaine de Saône, la Dombe, la plaine de la Bresse, mais aussi le Beaujolais vert derrière, est un des points de passage un peu stratégique mis en évidence par le schéma régional de cohérence écologique et qui montre là la nécessité de maintenir cette position de carrefour avec, encore une fois, la nécessité de réfléchir à un paysage qui permettra le maintien de cette bonne mobilité des espèces. Et là, notamment, ce qui est dans le viseur, c'est bien sûr le mitage urbain qui peut favoriser justement les déconnexions, les ruptures dans ces schémas régionaux de cohérence écologique. Donc là, on doit aussi réfléchir sur le paysage pour maintenir une structure paysagère favorable aux mobilités d'espèces. Donc, autrement dit, on a ici un territoire qui est en mutation, avec des enjeux environnementaux qui, vous voyez, sont très complexes, mais aussi finalement une opportunité, parce que voilà, c'est un espace qui bouge, qui a une dynamique et qui, on le voit, est véritablement en temps d'attente. Alors en attente de quoi ? Bah, c'est justement aussi ce pourquoi il peut y avoir une action des acteurs locaux et un partenariat, souhaitons-le, vertueux entre les géographes qui travaillent qui commence à travailler avec les acteurs locaux, notamment dans le cadre de ce plan de paysage. Et voilà ici quelques-uns des enjeux qui correspondent aux objectifs de ce plan de paysage. Donc, je ne vais pas tous les détailler, parce qu'en plus, ce serait plutôt au syndicat mixte du Beaujolais de les présenter. En revanche, en guise de conclusion de cette conférence, je crois que je vais revenir encore une fois sur... Bah, finalement, cette analogie, cette reprise de la citation de Paul Klee, c'est que vous voyez, la géographie ne représente pas le visible. Notre rôle, ce n'est pas que de faire des cartes, voilà, à l'emporte-pièce. C'est aussi de rendre visible toute une série de dynamiques, de processus qui passent sous les radars des statistiques ou qui passent un petit peu derrière l'histoire officielle. Et pour ça, bah, c'est l'expertise de terrain, c'est l'expertise paysagère, ce sont les enquêtes qu'on réalise qui peuvent nous aider justement à passer derrière le décor pour voir concrètement ce qu'il se trame derrière un paysage ou une histoire officielle. Donc moi, ce qui me tient à cœur justement en tant que géographe, c'est de défendre cette vision d'une science, voilà, qui est à la fois fondamentale, parce que finalement... on fait avancer la connaissance des dynamiques géographiques et territoriales quand on appréhende un territoire laboratoire comme celui du Beaujolais, mais en même temps, une science aussi qui est opérationnelle pour essayer de comprendre, comme le disait Jean Brune, comment l'homme s'est implanté sur la planète, comment il la transforme, en vue peut-être de contribuer à son ménagement, parce qu'encore une fois, cette planète, c'est la seule qui nous soit disponible à ce jour. Et je crois que là, on peut avoir potentiellement sur le Beaujolais une démarche vertueuse qui associe aussi bien de la recherche fondamentale. Voilà, on va pouvoir s'exciter sur comment les systèmes hydrologiques, géomorphologiques, paysagers sont organisés ou désorganisés derrière les structures paysagères. Mais en même temps, on peut peut-être aussi fournir des outils, des repères, des données, tout simplement, pour que les acteurs locaux puissent s'en emparer. Et enfin, voilà, j'insisterai sur deux points aussi qui me tiennent à cœur. C'est que, voilà, au-delà de la géographie, je trouve que ce qui est très bien ce soir, une veille de vacances à maintenant presque 20 heures, on est réunis pour parler, on va dire, de sciences, d'environnement. Et je trouve que c'est là une belle mission de notre université que de réunir un public très diversifié, des acteurs, des étudiants, des chercheurs qui se croisent et puis qui peuvent ici travailler autour d'un objectif commun. Et encore une fois, c'est un bel outil précieux que nous offre là l'Université Lyon 3, que je tiens à remercier. Voilà, Lionel Mignot n'est pas là, mais merci en tout cas pour cette opportunité. Et bien sûr, un grand merci aux étudiants qui ont plus directement travaillé que moi sur le terrain, à savoir Jessica Pic et Johan Le Guen. Et puis bien sûr, l'ensemble de la promotion du Master 2 géosystèmes environnementaux qui a découvert le Beaujolais finalement, il n'y a pas si longtemps, mais qui a réussi à s'en emparer pour proposer l'exposition photo. Et bien sûr, le syndicat mixte du Beaujolais qui est, on va dire, notre partenaire local, avec lequel j'espère on pourra continuer à travailler de façon vertueuse, efficace et utile à l'avenir, pour nous et puis surtout pour les étudiants aussi qui sont derrière. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous remercie aussi d'être venu ce soir pour m'écouter. Merci.
Si vous avez des questions, je viens à vous avec le micro et n'hésitez pas, donc levez la main. Pas de petites questions.
C'est toujours la première qui est difficile généralement. Après ça.
Après ça va se lancer. Allez, un courageux ou courageuse. Allez, c'est parti.
Moi, j'ai une question concernant l'étalement urbain et le mitage et le fait que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une stratégie de laisser en friche, alors plus ou moins entretenue, afin d'espérer un changement d'affectation du sol. Et donc ma question porte, parce qu'on a senti qu'il y avait une tension avec des acteurs, on ne sait pas si c'est des acteurs publics et c'est la commune, pour empêcher finalement cette dynamique, ce changement d'affectation. Donc, je voulais savoir quels sont les procédés qui sont mis en œuvre pour essayer de contenir en fait, et est-ce qu'il y a vraiment une stratégie pour contenir le changement d'affectation des sols et qui la met en œuvre, et avec quels moyens. Voilà.
Non, mais c'est une bonne question. Alors en fait, ça dépend, ça se décide beaucoup à l'échelon communal. Mais voilà, par exemple, il y a une commune, alors j'ai oublié, mais c'est dans le secteur pareil des Pierres Dorées, où par exemple, je tiens dans un groupe de travail là, du plan de paysage, le maire qui disait, mais en fait, ça coûte extrêmement cher, donc la commune n'a pas les moyens, par exemple, de faire le travail de nettoyage que ne fait pas, et parfois de façon volontaire, le propriétaire. Donc dans ce cas-là, il peut avoir recours finalement au tissu associatif qui, par le biais de voilà aussi d'activités bénévoles, peut aider à démanteler ou en tout cas à nettoyer ces parcelles qui jusque-là donnaient lieu à une friche aggravée en quelque sorte. Donc ça se décide beaucoup, notamment en fonction des impulsions locales, communales, mais avec les moyens du bord, et souvent les moyens du bord pour les communes, c'est souvent... c'est hors d'atteinte, c'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai pas les prix en tête, mais la main-d'œuvre qui serait nécessaire pour mettre en place une ingénierie de remise en état des parcelles, ça coûte très cher. Donc il y a des expériences qui ont, on va dire, des façons détournées, notamment par le rouage associatif, pour essayer de remettre en état tant que possible ces parcelles, et du coup d'essayer de contenir effectivement le mitage urbain, parce que si on rend une parcelle plus propre, on peut d'autant mieux après maintenir une activité agricole qui sera peut-être pas une activité viticole, d'ailleurs qui pourra sans doute être autre chose.
Oui, c'est une dynamique qui est à l'œuvre et qui est assez importante. Les communes, elles essaient de limiter l'enfrichement du territoire parce que c'est un aspect négatif, comme ça a bien été démontré. Néanmoins, en effet, il y a ce prix du foncier qui est vraiment très, très attractif. Et il y a pas que ça aussi, hein, il y a aussi du fait du départ à la retraite d'un bon nombre de viticulteurs qui ne trouvent pas de repreneurs. Et aussi pour reprendre aussi, rebondir, il y a des nouvelles évolutions déjà qui sont à l'œuvre, où on voit, suivant la structure d'appartenance parcellaire, on va avoir des réactions qui vont être différentes. On a remarqué que dans le nord, notamment du Beaujolais, même si donc il y a un prix du foncier qui est plus intéressant pour les viticulteurs, les parcelles, elles appartiennent à des propriétaires qui n'exploitent pas leur terrain, qui sont situés en dehors du territoire du Beaujolais, et qui ne vivent pas le Beaujolais, et qui sont peu enclins au changement des pratiques culturales, donc d'évoluer vers des nouvelles pratiques pour répondre au marché, parce que le marché du vin évolue, alors que dans le sud du territoire, on a remarqué qu'il y avait des nouvelles pratiques qui étaient... Donc les viticulteurs sont plus proches des propriétaires, les propriétaires sont souvent en coopérative, et à ce moment-là, il y a eu une plus grande réactivité des propriétaires pour aller vers des nouvelles types de cultures qui répondent plus à la demande. Notamment, par exemple, ça a été cité le Bourgogne. On a des appellations de Bourgogne blanc ou crémant ou même rosé qui viennent alimenter le marché et qui sont assez positifs et qui, du coup... ont entraîné pas mal de remises en culture c'est cette année, depuis 2-3 ans, là, donc c'est vraiment tout récent. Donc on voit qu'il y a des dynamiques en cours qui peuvent être faites, mais c'est surtout le marché qui régule. Et les communes, on pourrait dire qu'elles ont que leurs yeux pour pleurer ou être satisfaites du nouveau marché. Et d'où l'intérêt de l'appellation, c'est essentiel et primordial pour la survie du Beaujolais. Et cette appellation-là est en train d'être renégociée en ce moment à l'INAO. Il s'agit de... Donc on a l'appellation Bourgogne depuis les années 30 et il s'agirait de la supprimer. Et ça crée des scissions très très importantes et des grosses tensions sur le territoire.
Bonsoir. Moi, j'aurais une question sur l'aspect social de la chose, dans le sens où il y a une transformation du paysage du Beaujolais. Et notamment dans le sud, du coup, il y a une arrivée de plus en plus grande de néo-ruraux, donc anciens urbains, je ne sais pas, pour généraliser grossièrement, anciens banquiers qui va venir s'installer à la campagne. Et avec une vision très développement durable, très préservation de l'environnement, etc., permaculture. Et donc, du coup, il peut y avoir des confrontations sociales très fortes entre ces nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire et peut-être des personnes du terroir qui travaillent la vigne, enfin, et qui d'un coup se confrontent à ces gens qui disent « mais non, faut pas faire comme ça ». Et quel impact il peut y avoir, en fait, en lien avec tout ce que vous avez dit, quoi, quel impact il pourrait... À quel point, en fait, l'arrivée de ces néo-ruraux pourrait influencer, dans un sens ou dans l'autre, le paysage du Beaujolais.
Alors, c'est une question qui est pas simple. Alors déjà, peut-être que le banquier est toujours en activité, hein, il n'est peut-être pas forcément ancien banquier. Je pense qu'il peut y avoir des effets, qui sont ambivalents. Déjà, c'est vrai que ça peut procéder, un développement, un essor, effectivement, comme vous le disiez, d'un esprit un peu de gentrification rurale, qui peut aussi amener à stimuler de nouvelles activités agricoles qui paraissent a priori complètement exotiques. Donc ça peut favoriser une certaine forme, je ne vais pas dire d'innovation, mais on peut voir apparaître comme ça. Alors on a eu la lavande, il y a le safran, qui sont un peu stimulés par nouvelle culture, cette nouvelle sociologie, des habitants. Après, autre dommage un peu, cette fois-ci collatéral un peu plus négatif, c'est que quand on a un habitant qui s'installe, il vient aussi avec un certain nombre d'images, perçu, peut-être déformé, et qu'il a envie d'imposer en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a envie, il a une idée assez précise de ce qu'il veut être le paysage. On dit parfois que le sud du Beaujolais, certains le rêvent un peu comme une nouvelle Toscane avec un paysage presque un peu méditerranéen. Et donc il peut y avoir une forme aussi de pression pour essayer de déformer le paysage d'une façon qui pourrait être un peu folklorique en quelque sorte et qui déforme en fait le paysage par rapport à sa fonction, initiale. Après, moi, en tout cas, on n'a pas à ce stade-là rencontré véritablement de conflits, par exemple, d'acteurs ou de choses comme ça. Ce qui peut se produire, en revanche, c'est que, de façon très concrète, il peut y avoir une élévation du prix de l'immobilier parce que, là, pour le coup, il y a une spirale, je vais pas dire vertueuse, mais en tout cas, ce qu'on appellerait une boucle de rétroaction positive, qui irait vers le fait qu'il y a un emballement des prix de l'immobilier. Et ça, pour le coup, ça déstabilise quand même pas mal le rapport de force local. C'est-à-dire que si je veux agrandir mon exploitation, forcément, je tombe sur des prix fonciers qui sont déraisonnables par rapport à mon potentiel. Quoi.
Merci. Je vois qu'il y avait deux mains.
Du coup, on a eu des retours d'expérience qui sont sur le terrain assez importants. En fait, c'est que, par exemple, il y a 10-15 ans, 80% des enfants dans les écoles, ils étaient issus du monde viticole. Et du coup, ils comprenaient les viticulteurs et leurs pratiques culturelles. Et aujourd'hui, on a plus de 80% des enfants qui ne sont pas issus du monde viticole. Du coup, il y a une grosse déconnexion entre les habitants du territoire et ceux qui cultivent le territoire. Et avec toutes les problématiques que l'on connaît d'agribashing aujourd'hui, on a des gros problèmes, des tensions entre les cultivateurs du territoire et les habitants du territoire. Il y a eu des efforts qui ont essayé d'être faits par les viticulteurs, notamment de mettre une application où ils appellent, ils envoient un message à tous les locaux pour leur dire quand est-ce qu'il va épandre, pour leur éviter notamment d'étendre leur linge ce jour-là. Donc c'était une démarche volontaire des agriculteurs. Ça s'est très mal fini puisque du coup les habitants ont refusé et ont voulu attaquer la personne qui allait épandre parce qu'ils avaient fait une lessive et qu'ils voulaient pouvoir étendre leur linge ce jour-là. Donc il n'y a eu aucun discours possible. Les élus essayant de répondre à cette problématique de discorde ont essayé d'organiser des réunions publiques. Personne n'est venu, aucun agriculteur et aucun habitant parce qu'il y a des tensions qui sont de plus en plus fortes. Et c'est une vraie problématique pour le territoire. C'est cet accueil de population néo-rurale qui ne veut pas comprendre le monde dans lequel il vit, dans lequel il vient s'installer, et qui perçoit le monde qui l'entoure comme étant dangereux et risqué pour lui-même et pour ses enfants. Donc c'est une véritable problématique. Et le plan de paysage essaie aussi, et c'est un des aspects, c'est de résoudre, de diminuer ces tensions-là et de résoudre un peu ce problème.
Moi, c'était au niveau de la question du foncier. Et est-ce que vous avez affaire au niveau énergétique, notamment à des questions du photovoltaïque, du potentiel photovoltaïque du territoire, ou est-ce que c'est surtout de la pression au niveau plus de la pression foncière de l'habitat?
Non.
Okay. C'est pas encore des enjeux qui...
C'est en cours de développement, mais il n'y a pas de pression pour faire de l'énergie renouvelable.
Ok.
C'est,
vous recherchez.
Ça, ça n'existe pas.
Non. D'accord, ok.
On a beaucoup de mal à faire sortir des projets d'énergie renouvelable.
Le développement de l'énergie renouvelable en France, il est très, très, très limité. Il va à un rythme quasi nul, puisque dès que l'on souhaite faire du développement d'énergie renouvelable, on dit « pas chez moi, not in my backyard », c'est une expression très, très connue. Et les locaux se constituent en associations de lutte contre le développement, donc ils se disent associations environnementales, de lutte contre le développement des éoliennes ou d'autres méthanisations ou autres. Et donc tous les projets sont bloqués. Il y a un projet, ça va faire peut-être 10 ans dans le Haut-Beaujolais, il n'est toujours pas sorti et le préfet vient de donner son accord il y a un mois. Donc ça avance pas du tout.
Merci. Il y avait une question au fond, j'arrive.
Voilà. Merci. Non, ce sera pas une question, ce sera un témoignage. D'abord, merci pour cette présentation. J'ai une certaine attache pour le Beaujolais, ce qui m'a amené ici ce soir, donc ça se voit, j'ai passé l'âge d'être étudiant chez vous, je regrette. Je voudrais juste rebondir sur les quelques questions et observations qui ont été faites, donc en tant que citoyen du Beaujolais, acteur économique du Beaujolais, issu du monde agricole. On a un blocage culturel dans notre pays qui est accentué par les lois et règlements, et notamment l'héritage, qui fait qu'au fil des générations, les parcelles qui pouvaient avoir une certaine surface se sont divisées en fonction du nombre d'enfants, très souvent. Les tentatives de remembrement qui ont été faites dans d'autres territoires, c'est réalisé par exemple, c'est le cas de la Dombes, ont totalement échoué dans le secteur du Beaujolais, parce que chacun, avançant que la vigne est une culture sur le temps long. On a des cépages qui ont 40 ans, 50 ans ou plus. Et que le travail qui a été fait pendant une génération, voire deux, ne permet pas de le compenser à juste valeur avec celui du voisin qui n'aurait peut-être pas eu la même pertinence, la même persévérance dans la valorisation de son vignoble. D'où ces parcelles étroites. Avec, ce que disait monsieur, l'inconvénient aujourd'hui des épandages qui, s'ils doivent être faits avec un retrait de 30 mètres ou 40 mètres, vont correspondre à la moitié ou aux deux tiers de la largeur du tènement. Ce qui veut dire que la partie qui sera cultivée sera infime. Sur les friches, il faut savoir qu'en 2000, la question s'est posée d'abord. Entre 1950 et 2000, vous l'avez peut-être vu, lu, la surface cultivée en vigne a augmenté de 50%, grosso modo de 14 000 à 22 000 hectares. Et je pense que... C'est pour ça que j'ai bien aimé la photo par laquelle vous montriez au début du siècle qu'effectivement, c'était très polyculture. Et c'est la demande en vin qui a créé effectivement cette expansion. Et je pense que chacun pensait que les arbres allaient pousser jusqu'au ciel. Et ça, ce ne fut pas le cas parce que les vins du Nouveau Monde sont arrivés. En 2000, il y a eu un renversement de la situation. Et en 2005, le gouvernement s'est penché sur les vignobles en France, le Beaujolais en particulier, et le plan Beaulieu, du nom de l'ingénieur qui a piloté les travaux, ont amené la décision de devoir supprimer 30% des surfaces. Et ce n'est pas forcément les plus mauvaises qui ont été supprimées. Et si j'ai ça, c'est parce que l'interférence du politique sur l'économie peut parfois être mal lue, mal vécue. C'est que les vignes qui ont été arrachées à ce moment-là l'ont été par des gens qui ont voulu partir en retraite, ne pouvant pas céder ou ne sachant pas céder, ont raisonné sur la base toute simple de l'indemnité compensatrice à l'arrachage. Et donc des belles parcelles ont pu être arrachées, avec une obligation de ne pas replanter pendant 10 ans. On va arriver bientôt au moment de le faire. Sur la cohabitation des banquiers qui vont à la campagne et qui cohabiteraient mal, je pense que c'est une chance probablement de pouvoir sauver de l'immobilier de qualité qui a été construit au 19e, 18e ou 19e siècle, déjà par des Lyonnais qui possédaient les domaines, parce qu'en général, ils ne veulent pas arracher la vigne et ça permet à des vignerons en place de pouvoir étendre leur propre surface, justement grâce à cet aidement qu'ils sont libérés. Tout ça sous l'autorité de la SAFER, la Société d'aménagement foncier de l'espace rural, donc qui est un établissement public, qui préempte et remet sur le marché. Et aujourd'hui, on voit émerger des jeunes agriculteurs qui veulent investir dans leur outillage, dans leur commercialisation, et ont compris qu'il ne fallait pas forcément être propriétaire du tènement pour pouvoir cultiver la vigne et élever et vendre son vin. Et je fais partie de ceux qui font la promotion justement de cette organisation. À la condition, c'est qu'on n'achète pas des surfaces de vigne comme une rente à vie, mais qu'on la fasse dans une certaine dynamique, c'est-à-dire de s'engager à arracher pour replanter. Juste une question, quelques chiffres. Dans le sud, l'hectare est à 50 000 euros. Quand on est dans les grues Saint-Amaud, Fleury et quelques autres, on est entre 90 et 120 000 euros l'hectare. Et reconstituer un hectare de vignoble, c'est 22 000 euros. C'est-à-dire que c'est beaucoup et ça consomme à peu près le rendement des 10 premières années. Voilà. Rien n'est impossible. Et puis juste un point, si vous me permettez, je suis peut-être un peu long, mais je ne sais pas si vous aviez, avant que j'arrive, je suis désolé, je suis arrivé en retard, parlé de Géoparc.
Ah, très, très brièvement.
Alors Géoparc va redonner de la fierté à une population qui se désespérait. Et je pense que le mixte aujourd'hui des urbains et des indigènes, j'en suis, si elle est bien comprise, pourra faire effectivement un binôme qui permettra la compréhension. Et c'était cette fierté qu'il était nécessaire de reconstruire après la désespérance qu'on a connue avec les suicides de vignerons. Nous en avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les années 90 et début 2000. Voilà, je suis à disposition si vous avez des questions, mais j'étais assez long.
Merci beaucoup.
Et en tout cas, merci de votre accueil.
Oui, je ne sais pas si ma question va être pertinente, mais je me demande est-ce que avec l'abandon justement de ces parcelles, est-ce que ça ne va pas entraîner une rarification des activités viticoles? Est-ce que du coup, avec cette rareté, en plus en ajoutant des futures appellations, est-ce que ça ne va pas donner une nouvelle attractivité pour la viticulture?
Oula, alors là, non, c'est pas, la question n'est pas impertinente, hein, mais en fait. Là, je ne sais pas trop comment répondre, là, honnêtement. Il y a tellement de facteurs complexes qui rentrent en compte pour essayer de voir. Ça marche. Pour savoir si effectivement ça va repartir, si l'activité viticole va repartir à la hausse, ça dépend notamment des lois du marché, ça dépend notamment de la concurrence avec les vins du Nouveau Monde. Mais je crois que, quand même, globalement. Ça peut paraître ambigu parce que notamment on parlait du géoparc du Beaujolais. Le géoparc du Beaujolais vante notamment la qualité paysagère des paysages du Beaujolais, qui sont en grande partie des paysages structurés autour du vignoble, qui donne un paysage, c'est vrai, esthétiquement reconnu et attractif aussi, et valorisable pour un tourisme de proximité notamment. Mais malgré cela, il y a quand même le sentiment qu'il faut aussi inventer d'autres systèmes. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de cultures qui sont encore anecdotiques, comme le safran ou autre. On sent qu'il y a quand même plutôt la volonté de rechercher un autre point d'équilibre, qui n'est pas forcément de tourner le dos complètement au vignoble, surtout à un moment où, encore une fois, on revalorise aussi le paysage qui y est associé, mais d'essayer de trouver d'autres activités. Et comme je disais tout à l'heure, il y a notamment une opportunité qui apparaît maintenant qu'on a aussi compris ou formalisé ce que pouvait être en tout cas un circuit court, d'imaginer d'autres types d'activités agricoles, non viticoles, qui pourraient avoir une vocation, une utilité, une certaine rentabilité pour alimenter la métropole de Lyon en produits agroalimentaires. Donc en fait, tout ça pour dire que je n'ai pas le sentiment que il y a forcément une envie totale et entière de retourner vers un état viticole antérieur qui est un peu un état, je veux dire aussi, je ne vais pas dire fantasmé, mais en tout cas, c'est intéressant quand on rencontre les acteurs locaux de se rendre compte que maintenant qu'ils sont aussi beaucoup questionnés sur qui ils sont, je pense que voilà, le fait qu'il y ait un plan paysage, qu'il y ait le géoparc, comme ça a été dit, voilà, c'est l'occasion de revaloriser ce territoire, mais aussi de se plonger un petit peu dans son histoire, de ce qui fait patrimoine. Et finalement, on se rend compte que le vignoble, c'était une étape aussi de cette évolution et que bah, finalement, revenir à de la polyculture, je ne dis pas que ça va se faire forcément, mais c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et que ça peut aussi avoir un sens, notamment encore une fois dans cet esprit circuit court que j'évoquais. Donc autrement dit, oui, le vignoble va se contracter, il s'est déjà contracté, il y a des nouvelles appellations qui se recomposent, donc peut-être que ça va faire repartir, on va dire, la rentabilité du vignoble, mais quand même, globalement, je n'ai pas l'impression que ce soit... Ce vers quoi ça s'oriente de toute façon, ni forcément que ce soit la direction vers laquelle il y a une volonté totale de s'orienter.
D'accord, merci.
Du coup, je voulais savoir si le nombre de superficies par viticulteur avait varié dans le temps. Enfin, s'ils avaient plus de parcelles aujourd'hui qu'avant, ou moins, ou en termes de superficie. Et est-ce que s'il y a une fluctuation, est-ce que ça impacte la gestion territoriale, justement, de ces parcelles agricoles ? Enfin...
Alors, en fait, il y a une tendance, mais je veux bien que c'est une tendance, après, c'est très compliqué, parce que là, encore une fois, on tombe sur des difficultés d'interprétation des statistiques agricoles officielles. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des déclarations qui sont effectuées et qui montrent que, globalement, les propriétés... Alors, ça dépend, il y a un peu de choses. Certaines ont tendance à se contracter un petit peu, avec voilà, des formes d'abandon. On abandonne la parcelle la plus éloignée. Alors, parfois, on déclare l'abandon. Parfois, bah, quand c'est un départ en retraite, on ne le déclare pas forcément. Donc, les statistiques sont un petit peu trompeuses. Mais en tout cas, dans certains cas, des formes de contraction. Mais aussi, parfois... des formes de, on va dire, de quelques rachats de grandes propriétés, avec à ce moment-là quelques grandes exploitations qui, elles, deviennent des exploitations très différentes de l'exploitation familiale qui peut être le schéma un peu typique, et on va avoir un propriétaire qui va avoir une propriété beaucoup plus vaste. Alors après, dans quelle mesure ça peut interférer avec la dynamique territoriale ? Je crois que ce qui est important, c'est ce que disait Bertrand Girard, qui vient de partir il y a quelques instants, c'est que c'est surtout, finalement, est-ce que le propriétaire est celui qui exploite ? Ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il vit aussi sur place ? Et c'est peut-être plutôt ça qui, après, va... influencer la dynamique territoriale. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, le fait de vivre sur place ou pas va influencer ce qu'on a envie de faire, finalement, et de la dynamique après qui va s'imposer. Voilà, si c'était ça ta question. Donc, ce n'est pas tellement la taille de l'exploitation qui va compter, mais plutôt qui l'exploite, est-ce que c'est le propriétaire, est-ce que ce n'est pas le propriétaire, est-ce qu'il vit sur place, est-ce qu'il ne vit pas sur place, est-ce que, grosso modo, c'est un gros investisseur voilà, pour qui c'est quelque chose de lointain. Bon, c'est pas omniprésent dans le Beaujolais, mais ça peut arriver dans certains cas. C'est plutôt ça, les éléments qui vont influencer ce qui va après se mettre en place localement.
Est-ce qu'on a observé un changement dans la général dans la biocénose avec les changements qu'on a pu voir de paysage par exemple? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de vignes, ça a apporté de nouvelles entre guillemets espèces ou catégories de bestioles à pattes?
Typiquement, il va y avoir une augmentation. Il y a beaucoup de robiniers, d'acacias qui se développent sur les friches. Mais après, ça c'est compliqué à mettre clairement en évidence parce qu'il y a aussi, mine de rien, une trame de fond qui se met en place en relation avec le réchauffement climatique. Donc il y a à la fois le fait d'une forme d'abandon et des espèces invasives comme typiquement l'acacia ou le robinier qui se mettent en place. Mais il y a aussi d'autres dynamiques évolutives qui sont plutôt liées cette fois-ci aux paramètres climatiques qui font que parfois, d'ailleurs, les viticulteurs nous disent comme ça, la forêt descend de la montagne, en fait. C'est-à-dire que les forêts, notamment des forêts de résineux qui avaient été d'ailleurs artificiellement implantées tout au long du XXe siècle, notamment dans la seconde partie du XXe siècle, ont tendance elles-mêmes déjà à se reconfigurer en termes d'espèces écologiques. Donc on a moins de résineux, on a d'autres espèces qui prennent le pas. Et aussi d'ailleurs, on essaye parfois, enfin quand je dis on, les acteurs locaux, les forestiers, essayent aussi de commencer à faire apparaître des espèces qui sont plus robustes pour encaisser notamment les sécheresses estivales. Et globalement, c'est quelque chose qui est très perçu par les acteurs locaux, comme cette forêt qui descend de la montagne et qui, notamment stimulée par le réchauffement climatique, ferait que la croissance de l'arbre serait particulièrement rapide et amènerait une forme de reconquête forestière au détriment de la vigne. Et en fait, là, pour le coup, on a beau aller sur le terrain, regarder les photographies aériennes au plus fin, c'est pas quelque chose qui est véritablement avéré dans nos cartographies et dans nos modèles évolutifs. Donc là, est-ce que on n'arrive pas à trouver la bonne résolution ou quoi? Mais il y a, semble-t-il, quand même un décalage entre ce qui est vraiment perçu par l'habitant, par l'acteur local, et ce que l'on retrouve véritablement dans nos résultats et dans nos investigations. S'il y a une telle unanimité quand même de ce constat, c'est qu'il doit y avoir quand même sans doute des lieux stratégiques ou emblématiques, ou peut-être des lieux que l'on voit et qui servent d'exemple de symptômes qui font que il y a une perception de cela. Mais après, très concrètement, dans les faits, c'est epsilon, c'est quasiment rien par rapport, par exemple, aux conversions entre vignobles et prairies, qui, pour le coup, ne sont pas présentes, ne sont pas forcément perçues par les acteurs locaux, mais qu'après, quand on creuse, sont vraiment la dynamique paysagère dominante.
Et en ce qui concerne la faune, vous avez des informations ou pas?
Alors, ce qui concerne la faune, c'est toujours très, très compliqué. En tout cas, ce que l'on voit apparaître, c'est quand même globalement davantage de niches écologiques qui sont favorables, notamment aux sangliers, qui est parfois pour certains, qui apparaît maintenant presque comme un nuisible, qui est perçu comme nuisible par certains. Mais nous, en tant que géographes, on travaille plutôt sur la répartition des niches écologiques, pas tellement sur des décomptes d'espèces locaux. Ça, on va laisser ça à nos amis et collègues écologues.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui.
Bonsoir. Ma question portait sur savoir si vous aviez éventuellement comparé la situation avec d'autres vignobles en France, ou pas forcément en France d'ailleurs, qui se seraient retrouvés dans une situation de transition comme le Beaujolais, ou dans le sud-ouest par exemple. Il y a eu voir des zones où le vignoble recule aussi, ou a vécu des transitions, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ?
Alors effectivement, là j'ai été contacté récemment par une collègue de Montpellier qui travaille justement plutôt sur le vignoble du grand sud-ouest, notamment aussi bien le Languedoc que dans le pourtour, on va dire, de Cahors notamment, où il y a, toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas une grande métropole comme Lyon à proximité de Cahors, mais une autre forme de pression foncière et d'autres formes, on va dire, d'abandon du vignoble. Néanmoins, c'est vrai que le Beaujolais apparaît comme relativement atypique. Parce que il y a quand même la proximité de cette très grande métropole. Et les quelques cas où il y a des vignobles à proximité, notamment Bordeaux, là, le vignoble est quand même très stable parce que c'est un vignoble à forte plus-value, on va dire, économique. Après, moi, concrètement, j'ai plutôt travaillé d'abord sur les systèmes bourguignons, pas tellement sur de l'évolution paysagère, parce que c'est pareil, c'est un vignoble qui est quand même relativement stable, même s'il y a une légère contraction du vignoble pour laisser... ce qui correspondrait ici au premier type de friche, à la friche qu'on abandonne par facilité, parce que ce n'est pas la meilleure, parce qu'elle est compliquée à investir. Et là, ce qui était plutôt intéressant, quand on travaille sur les deux types de vignobles, c'est de voir vraiment comment la façon dont on l'a construit et on l'a structuré, j'ai même presque dire géométriquement, va créer des processus hydrologiques, des processus érosifs qui vont être différents. Voilà, c'est-à-dire que dans certains cas, il y a un vignoble qui désorganise les flux, dans un vignoble qui peut les favoriser. Et donc, c'est plutôt là-dessus que j'ai effectué une démarche comparative, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour reprendre plus le cœur de votre question sur la trajectoire, on va dire paysagère, la trajectoire de l'affectation des sols, il n'y a pas tant d'analogues que ça. On retrouve des points de proximité, notamment, comme je disais, avec le vignoble de Cahors. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme de typologie qui serait quand même à effectuer et qui n'est pas encore complètement effectuée à l'échelon national.
Merci. Encore des questions ? Y a-t-il... Dernière question, c'est parti.
Ouais, c'est juste je viens de repenser à ce que vous disiez sur le changement d'occupation du sol. Est-ce que vous savez s'il y a une volonté de la métropole de Lyon justement d'agir sur ces territoires pour en faire une sorte de grenier à légumes de Lyon, mais justement de réinvestir, de changer, parce que peut-être qu'elle a le pouvoir économique de changer les choses.
Le pouvoir économique, pas directement. En revanche, il existe un dispositif qui est plutôt mis en œuvre à l'échelon départemental, qui est ce qu'on appelle une PENAP, qui est en fait une façon de sacraliser en quelque sorte des périmètres agricoles en position périurbaine et donc directement sous la menace d'un mitage foncier. Et donc ces PENAP, voilà, c'est sous l'égide du département. Après, c'est les communes qui éventuellement peuvent s'en emparer. Et donc, notamment dans le secteur des Monts d'Or ou du sud des Pierres Dorées, il y a des communes qui s'emparent de cet outil-là pour justement réfléchir à des périmètres qu'il faudrait justement absolument, en quelque sorte, sacraliser pour faire en sorte que l'on fige la vocation agricole. Donc, le dispositif légal, il est quand même relativement récent, mais il existe. Et en tout cas, il commence à être mis en œuvre dans la partie nord de la métropole de Lyon. C'est vrai que notamment, dans le secteur des Monts d'Or, on sait très bien que s'il n'y a pas ce genre de dispositif, il peut quand même y avoir une tendance très, très rapide à construire et à faire progresser le mitage urbain. Mais bon, après, toute la question, c'est justement quand il n'y a pas tellement de ressorts économiques, même s'il y a des aides, quelques aides qui peuvent exister, il faut quand même trouver à un moment une vocation agricole qui soit viable sur le plan économique sans qu'elle soit en permanence sous perfusion d'un certain nombre d'aides, qu'elles soient locales ou même éventuellement européennes.
Est-ce qu'il y en a vraiment une dernière ? Ou est-ce qu'on conclut sur cette dernière question ? Bon, eh bien, merci Monsieur Cossard pour cette intervention. Merci à vous tous pour votre présence et vos questions. Pour les prochaines conférences questions de société, n'hésitez pas à regarder sur notre site web, sur nos réseaux sociaux aussi, où on indique les dates et les sujets des conférences, ainsi que bien sûr l'intervenant qui sera là. Donc merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée.